lu et approuvé.
Ce serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Ouais, on dérange, bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de créneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé, la bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir éveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non, on n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
La vie est tellement plus vaste que nous, Marie. Tellement. Tu as 14 ans et j'ai pris la responsabilité de ne pas t'avoir mise à l'école. Depuis 3 années à peu près, j'estime que mon rôle de tutrice est accompli et je te dois des comptes. Alors voici ce livre. Je n'ai pas voulu de la crèche, ni de la maternelle, ni de l'école paternelle. D'abord parce que, de fait, en dépit de la loi, elle est quasiment obligatoire. Raison suffisante. Ensuite parce qu'elle est inutile. Enfin, parce qu'elle est nuisible. Mon propos n'est pas de le démontrer. Un grand nombre de pédagogues y sont très bien parvenus. Je ne suis pas théoricienne et revendique d'aussi déraisonnables raisons que de nous lever à l'heure que nous le voulons. Pour ne citer qu'un des multiples exemples qui m'ont si souvent fait traiter de mère irresponsable. Je ne répondrai que devant toi et de mon insoumission. Non par devoir, mais par reconnaissance pour tout ce que tu m'as donné. Deux solutions, saboter le système ou l'ignorer. J'ai choisi la seconde. La première est sans doute possible pour des guerrieros et des guerrieras au nerf d'acier. Si ça te tente, je ne saurais trop te conseiller de lire quelques numéros réjouissants du journal La Truie qui doute, fait par des lycéens. Dans celui de décembre 81, il exigeait 50 élèves par classe. L'argumentation était la suivante. 1. À 50 par classe, les élèves sont plus libres. Le maître ne peut s'occuper personnellement de chaque. Ils peuvent apprendre ce qu'ils veulent quand ils veulent. 2. À 50, l'ambiance est chaude, on peut chahuter. La socialisation de la jeunesse est donc plus rapide. 3. L'enseignant craque forcément au bout d'un moment, plus ou moins long. Il part en congé maladie. Un remplaçant est recruté. Avantage, un malade en plus, donc amortissement plus rapide des cliniques de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, un chômeur en moins.
Ce soir, nous vous lisons Insoumission à l'école obligatoire de Catherine Becker aux éditions Ravin Bleu.
L'éducation nationale se choisit bien sûr les instruments nécessaires à la formation des citoyens. Ceux-ci se doivent d'être le mieux adaptés possible aux besoins des gouvernements en place. Dans un pays démocrate ou pseudo-démocrate, il est évident que les options philosophiques ou politiques auxquelles il faut complaire sont celles du plus grand nombre. Aucun rapport d'un quelconque savoir avec les sciences, les arts ni la culture, encore moins avec les goûts des uns et des autres. Les programmes scolaires, c'est un fait, peuvent sembler parfaitement hétéroclites. Va-t-on savoir pourquoi on a tenté de m'enseigner la trigonométrie et pas la médecine ? Pourquoi j'ai su par cœur le nom de tous les fleuves de Chine sans jamais avoir entendu prononcer le nom du canal près duquel j'étais née ? Pourquoi on s'est évertué, bien en vain, à m'enseigner 36 points de tricot, mais pas à sculpter le bois ? Je voudrais maintenant connaître le nom de tous les fleuves de Chine et aussi le nom des outils des hommes. Je ne dis pas, oh non, qu'il est sans intérêt de savoir tricoter ou peindre. Je dis que ce qu'on apprend en classe ne répond à rien de rationnel, mais surtout, et c'est pire, à rien de volontairement irrationnel. C'est le bric-à-brac des bibelots et quelques livres qui ornent la bibliothèque du français moyen. Et tu sais comme je m'amuse quand on m'assure que ce n'est plus, comme de mon temps, qu'au lieu des brassières, on fait faire aux filles de la mécanique ou de l'informatique. La belle avance. Ce qui n'a pas changé et ne risque pas de changer, c'est qu'on a choisi pour moi non ce qui me serait agréable, donc utile, mais ce qui est utile à la société. L'école, de par ses structures d'une invraisemblable lourdeur, est toujours dans ses programmes en retard d'une génération, mais cela ne change rien au fond. Quelques-uns convainquent même les gens que ce qui leur sera utile à eux, c'est justement ce qui sera utile à la machine appelée société. Et le plus fort, c'est que l'école inculque l'idée de je ne sais quel bien commun, persuadant certains qu'ils choisissent leurs alvéoles par altruisme. Ce qui est bon pour moi n'est pas bon pour lui, elle ou toi. En revanche, je ne crois guère m'avancer en disant qu'il est bon pour toi, elle ou lui, que moi, je sois bien dans mes petites bottines. Que nous avons tous intérêt à ce que chacun soit lui-même dans son harmonie, singulier et profond dans son être. L'enseignement est une affaire personnelle. Tu as le droit le plus absolu d'apprendre ce que tu veux. Plus varié et inattendu sera le savoir des autres et plus fantastique sera toute rencontre. J'ai quelque chose à défendre dans ce qui circule entre les gens, dans cet obscur rapport qui me lie aux hommes vivants et morts. Je n'ai pas éprouvé le besoin de te dire que l'idéologie dominante, pour reprendre le vocabulaire marxiste, n'était pas forcément l'idéologie de la classe dominante. Les mécanismes sont bien plus subtils que ça, et les rouages ne tournent qu'avec l'huile de tous les compromis nécessaires aux armistices réitératifs entre les classes. Par exemple, à l'école, il est mal vu de tricher, alors que la tricherie constitue un art fort prisé dans la bourgeoisie qui y voit une preuve d'intelligence, voire d'élégance. Même chose pour la bonté ou la générosité, qui sont chantées avec accompagnement d'harmonium de siècle en siècle, alors que l'examen est à plus forte raison, le concours, te montre de façon bien plus réaliste quelle autre vertu de la société exige en fait de toi. Ces décalages ne peuvent être uniquement dus au fameux retard institutionnel de l'école, mais servent à ménager certaines petites gens qui restent attachées aux valeurs chrétiennes ou marxistes. Hocher insignifiant, comme l'enseignement bien ridicule de la poésie, qui ne trompe que les vraiment pas bien malins. On a vite fait le tour des valeurs réelles objectives que transmettent la crèche et l'école. L'esprit prévaut sur le corps, le devoir sur le plaisir, l'adulte sur l'enfant, le conformisme sur l'originalité, l'obéissance sur la responsabilité, la répétition sur la créativité. Au fur et à mesure que l'enfant prend de l'âge, son champ de possibilités lui est rogné en même temps qu'on le fait passer au fil des ans du jardin d'enfant, où il jouit d'une relative autonomie, en terminale où il se soumet totalement au programme d'abord, puis, apogée, à la divination de ce qui peut bien plaire à un examinateur inconnu. Que le prof soit intelligent ou non, socialiste ou national-socialiste, féministe ou obtus, ne peut rien changer à ce qu'on cherche à former dans l'esprit des futurs adultes. L'enfant doit être enfantin, le vieillard sénile, la femme féminine, le penseur intellectuel. Amère calembredaine, douce amie, laissons les adultes s'adultérer. Tu connais la parade particulièrement excitante qui consiste à s'uriner. La famille impose à l'enfant des structures mentales aussi conformistes que l'école. Na. En regardant autour de moi, je m'aperçois, quoi qu'on en dise, qu'on se sort apparemment plus facilement de l'emprise de la famille, sans doute est-il moins ardu de rejeter père et mère que l'ensemble polymorphe de l'institution scolaire. Justement parce qu'il s'y trouve des gens qui semblent de votre bord, professeurs ou élèves, ce qui permet à l'école toutes les feintes dans ce jeu d'escrime auquel certains se livrent pour l'amour de l'art. Je suis toujours aussi effaré de constater la candeur avec laquelle on ose me rétorquer.
Mais qu'allez-vous chercher là ? L'école permet l'acquisition du savoir, c'est tout.
Il s'agit bien en effet d'acquérir, d'avoir, et donc, dans la logique du marché, de produire, de se vendre. Les maîtres modernes insistent d'ailleurs de plus en plus souvent, au nom de l'autonomie de l'enfant, sur une pédagogie qui doit amener l'élève à vendre sa production. Il est d'ailleurs notable que l'escroquerie commence au berceau. Ne dit-on pas qu'on construit des crèches pour le développement des petits ? Alors que chacun sait pertinemment qu'on ne construit des crèches que lorsqu'on a besoin de libérer des femmes pour le travail. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de raison autre qu'économique à l'élevage en série des enfants. Toute l'économie du monde est fondée sur la prostitution. On loue notre intelligence ou notre musculature au moi, avec le sexe en sus par des voies à peine détournées. On s'évertue à faire croire que la putain vend un ersatz d'amour et que ce n'est pas joli. Les professeurs, les chercheurs ne vendent-ils pas un ersatz de pensée ? Et il y a des véroles mentales plus infectes que certaines chancres. Acquérir le savoir. Non seulement le môme sait très vite que celui qui est en face de lui est en effet payé pour vendre son savoir, mais très vite on lui apprend à faire la pute. 20 billets s'il baise à la perfection, 15 quand ce n'est vraiment pas mal, 11,50 quand c'est triste mais honorable, 3 billets quand c'est minable. Il sait ainsi que ce que vaut chaque devoir, et par une supercherie élémentaire, on lui fait gober que c'est ce qu'il vaut lui. Cette négation de l'être, Michelet l'a bien vu, qui conseille aux élèves de se méfier de la prétendue culture qu'on les engage à acquérir, et de se faire une contre-éducation à partir de leur propre vie. Quand je te dis que l'école exalte l'avoir au détriment de l'être, je dis bien que seules les apparences auront une valeur pour elle. On sait à quel point la présentation compte dans l'institution scolaire, tant chez les enseignants que chez les élèves. C'est pourquoi les magasins de vêtements font des affaires en septembre, surtout dans les quartiers les plus populaires. Et ils ont bien raison, les malheureux. Un gosse mytho ne plaira pas. Ne réussira pas, je veux dire. Mais j'entends déjà les voix outrées de certains instits.
Ce n'est pas vrai, j'ai dans ma classe un petit arabe loqueteux, mais qui a l'air si intelligent.
À l'école, on a peur. Comme à l'armée, à l'hôpital, au tribunal. Peur des malheurs et douleurs qui peuvent arriver. Bien sûr, on peut être plus ou moins brave et surtout plus ou moins menacé. À la mère dont le petit hurle au premier jour de la maternelle, on dit
« Il va s'habituer ».
C'est effectivement ce qui se passe. On s'habitue. La plupart oublient même qu'ils ont eu peur, qu'ils s'y sont accoutumés. Le pli est pris. Ils ont peur toute leur vie, ne savent plus de quoi. C'est là que réside l'atrocité de la souffrance obscure. Certainement, avant l'école, existe déjà l'oppression du monde. L'enfant faible se heurte à la violence de l'adulte et de ce que permet l'adulte. Il fait l'expérience, avant d'en avoir conscience, du manque absolu de liberté et de tous les manques qui en découlent. D'où d'ailleurs son évidente supériorité sur nous. Il désire la liberté. Pour l'enfant, la liberté s'identifie au futur. En cela, il est tout à fait juste d'assurer que l'enfant est un être de désir.
« Je ne peux pas, je pourrais »,
dit-il. Et nul ne semble s'apercevoir que se trouve concentrée là toute l'énergie de l'espérance qu'épouse la volonté. La dépendance où il se trouve peut, c'est mon acte de foi, se vivre dans une inquiétude qui ne soit pas une panique. Je savais que je ne pourrais empêcher la peur de t'atteindre, ni de te meurtrir. Mais j'ai essayé d'éviter ce qui était dans mon pouvoir d'écarter de ton enfance. La sombre cochonnerie de l'institutionnalisation des rapports de peur entre adultes et enfants, car cela n'était en rien nécessaire. Il n'entrait pas dans mes vues de faire en toi un Bouddha, le prince protégé de tout mal par ses parents. Jamais je ne t'ai caché ta souffrance, ni celle des autres, ni la mort, ni l'agressivité des hommes, ni nos faiblesses. Mais pourquoi aurais-je permis que tu vives la peur pour la peur, pour le pur apprentissage de la peur coutumière ? Et qu'avons-nous à faire des poncifs délétères selon lesquels il faudra bien un jour ou l'autre qu'elle y passe ? En tant qu'elle, donc toi, passe au laminage de la terreur.
Le cynisme est la seule force dans laquelle les âmes vulgaires touchent à la probité. Nietzsche.
Si bien qu'on me répète indéfiniment.
C'est comme ça ?
Avec un défi aigre et méchamment triomphal dans la voix. Eh bien non, les choses ne sont pas comme ça. D'abord parce que, de mon côté, je peux changer ce qui ne me convient pas. Et il est assez intéressant de noter qu'une phrase aussi lumineuse puisse apparaître, par les temps qui courent, comme celle d'une illuminée. Ensuite, parce que les choses qu'il n'est pas en mon pouvoir ou en mon seul pouvoir de changer, je puis toujours les refuser et ne pas pactiser avec les résignés et accepteurs. Catherine, une de nos amies professeurs d'anglais, nous avait dit un soir.
Les récréations. On dirait des truies qui hurlent.
L'expression était si adéquate que j'ai en un instant été envahie par le souvenir de ces cours de récréation, de ce bruit si particulier, jamais entendu nulle part ailleurs, d'enfants hurlant. Et l'atmosphère des veilles de vacances, cette espèce de sauvagerie qui s'emparait des gamines. Une fois, de loin en loin, il arrivait que l'une craignît l'ennui de l'été. Mais pas l'ensemble. Oh non, pas l'ensemble. Bonne ou mauvaise élève, nous attendions l'été avec une immense convoitise. La veille des vacances, des farandoles barbares se déroulaient, d'où je me tenais lâchement à distance.
Vive les vacances! À bas les pénitences! Les cahiers au feu! La maîtresse au milieu!
Je n'osais pas chanter ça. Sans doute terriblement lèche-cul, craignais-je de trahir l'institutrice que j'aimais, que tout me forçait à aimer. Mais elle était gaie ce jour-là. Pour elle aussi, c'était les vacances. Et j'aurais pu lui lancer un clin d'œil en passant. Il y avait quelque chose de bien plus sérieux dans ma réserve. J'ai toujours eu une implacable épouvante du feu. Or, je prenais la chansonnette au mot, très littéralement, et je ne pouvais quand même pas souhaiter à la maîtresse une mort si horrible. Dans la petite horde, toutes n'avaient pas la même conscience de ce qui se disait là. Mais toutes n'étaient pas simplettes non plus, et je sentais bien que la farandole enragée exprimait une haine réelle. J'avais très peur. Nous étions heureuses pourtant. Je me souviens de chacune de mes institutrices, Mademoiselle Aubèze, Madame Lasserre, Madame Le Maire, Mademoiselle Baudin, de braves femmes très compétentes de surcroît. C'était une bonne école que l'école Sophie Germain, et la directrice, Mademoiselle Gaffer, avait su créer un climat détendu. La vie se déroulait sans grand drame. Les maîtresses, plus ou moins sévères, élevaient peu la voix. Parfois, l'une ou l'autre riait pendant la récréation. Ça nous faisait plaisir. Il y avait d'autres écoles non loin, où les institutrices avaient l'air méchantes ou vulgaires. Non, pas chez nous, on avait de la chance. Certes, elles étaient distantes et cela me serrait le cœur, mais on pouvait toujours poser des questions sur ce qu'on n'avait pas compris. Elles répondaient sans s'énerver. Ouais, de bonnes maîtresses. Je n'ai pas de reproche à leur faire. Elles m'ont bien aimée, j'ai tout fait pour ça. Et je le dis le cœur fendu. Les enfants n'aiment pas l'école. Ceux qui disent l'aimer, comme je le faisais, vivent souvent dans un système de séduction dont ils ont bien plus de mal à se débarrasser que ceux dont on a brisé la révolte par la répression. J'aimais l'école parce que ça faisait plaisir à maman et que les institutrices puis les professeurs me savaient gré d'être attentives, disciplinées, obéissantes. Me faire aimer d'elles, c'était surtout échapper à l'enfer d'humiliation où vivaient les mauvaises. On disait les bonnes et les mauvaises. C'était toute une conception de morale de la réussite scolaire. Il me semblait que jamais je n'aurais pu supporter les constantes réprimandes, les cris, voire les claques, les mains sur la tête, les tours de cour, le coin, la convocation des parents. Maintenant, Marie, j'ai très peur de ma peur ancienne. Quelle dignité pourrais-je attendre de moi si je me trouvais un jour en situation d'être ainsi humiliée ou punie et que je ne puisse le supporter? Si je rampais à 6 ou 12 ans, sans doute ramperais-je encore maintenant et demain. Mais le pire, c'est que je voyais assez clairement la part de ma poltronnerie, et que pour rien au monde, je n'aurais voulu être une chouchoute. Tu imagines dans quelle situation compliquée je me mettais alors. Mais je t'assure que je n'étais pas la seule enfant à m'angoisser dans d'inextricables fils. Les 2 premières années, bavarder était le crime par excellence. Au cours préparatoire, avant toute chose, on nous apprenait à nous taire, et plusieurs fois par jour, nous devions rester assises, les bras croisés, le doigt sur la bouche. Je l'ai encore vu faire en 1980 dans une école du 12e arrondissement. Si bien que lorsque mes petites voisines me parlaient, je ne répondais pas. Tu vois un peu. J'avais beau avoir 6 ou 7 ans, je savais pertinemment que c'était d'une goujaterie grotesque. Alors, je rattrapais ma réputation avec une drôle de perversité destinée à culpabiliser la maîtresse et à montrer à mes compagnes que j'étais, malgré tout, de leur côté. Chaque fois que la maîtresse en colère demandait « Qui a parlé? Qui a ri ?» Moi, l'innocente, je levais le doigt. Elle hésitait à me punir et ne le faisait qu'avec un air de s'excuser dont je jouissais fort. Consciente que cette supercherie pouvait aussi bien m'attirer la rancœur de mes condisciples, je m'évertuais par ailleurs à mériter une auréole de bonne petite camarade. Je recopiais les cours des malades, jouais les avocates pour les tabliers tachés et les lacets perdus. Puis, je rentrais chez nous et persécutais ma petite sœur. Vers 8 ou 9 ans, j'étais moins névrosée, ou peut-être bien plus inconsciente des déchirements auxquels je m'exposais la peur d'être rejetée par les institutrices d'une part, les élèves de l'autre. Bref, j'étais devenue normale. Je souriais beaucoup, je faisais bien mes devoirs et aux besoins ceux des autres. Une enfant gaie, serviable, sans problème. À tous les niveaux, l'école encourage la lâcheté. Et ce n'est d'ailleurs la faute de personne. C'est la situation scolaire elle-même qui crée une mentalité d'enrégimenté. Prends par exemple mes bonnes maîtresses. Elles ne manquaient pas de nous dire qu'il fallait les interrompre à chaque fois que nous perdions le fil. Comme si ça avait été simple. Lever le doigt pour faire remarquer à toute la classe qu'on est un peu dur de la comprenette. Ça demande déjà du courage. Avouer qu'on est perdu, on peut le faire une fois, deux fois. Trois, ça devient délicat. Et quatre, sérieusement embêtant. Pendant qu'on fait répéter, les élèves qui ont compris perdent leur temps. Si bien que c'est le tour classique. Seuls les bons peuvent se permettre, ce qui demeure, qu'on le veuille ou non, à la limite de l'impolitesse. Tout le reste, à l'avenant, on fait semblant de comprendre, on triche, on falsifie ses notes. Que tout ça est infect. Ce dernier mot m'évoque autre chose. C'était au lycée. Je transpirais beaucoup. Après le lycée, je n'ai plus jamais connu cette sueur-là que dans des cas de panique extrême. Mais je ne savais pas alors que si grande était mon angoisse. On avait décrété une fois pour toutes que j'étais trop timide à l'oral. Quelques adultes comprenaient, eux aussi dans leur enfance, perdaient leurs moyens quand il fallait monter sur l'estrade. Ils s'en souvenaient. Mais qu'est-ce que leur compassion changeait pour moi ? J'étais d'un tempérament nerveux, voilà tout. Lors des compositions, on me donnait du Valium. Je ne représentais pas le seul cas d'espèce, et la pratique des tranquillisants, que je sache, n'est pas tombée en désuétude. Tant s'en faut. L'enfant timide ou sensible est supplicié dans ce groupe de petits et de grands aussi énervés les uns que les autres. Mais craintifs ou pas, tous sont confrontés à des dizaines d'épreuves quotidiennes. « Monsieur, je peux faire pipi ?»«
Tu attends la récréation. »
5 minutes plus tard. « Monsieur, je tiens plus !»«
Bah ça t'apprendra !»
Presque toute la classe rit, le maître magnanime prend un air sévère.
« Bon, tu sors. Mais c'est la dernière fois. En rentrant, tu me récites la table de 7. Dépêche-toi. »
L'instituteur n'a pas conscience que 5 ou 6 perdus dans la classe le regardent avec une sorte d'horreur. Ils savent ce que c'est que l'envie de faire pipi et ils comprennent de la vessie à la tête par tous les frissons qu'ils dépendent d'un maître. Qu'ils sont comme des chiens à qui on fait apprendre la table de 7. Ils sont avec un maître chien qui les dresse. La dignité humaine ? Heureusement, ils ne connaissent pas ces mots-là. Mais ils pénètrent profondément bien la cruauté qu'il y a dans l'air.
Take this advice. A mother once gave to her son. and a dazzle in your eyes. Your role in this world you have to realize. Cause it's a you the serpent one brutalize. So strengthen up yourself, your youth and your wife. Bring forth good fruit, child, the future of we life. Bring forth good fruit, child, the future of we life. Oh, strengthen your mind. We're living in serious times. It's such a mysterious time. We're living in serious times. Strengthen your mind. We're living in serious times. It's such a mysterious time. We're living in serious times. Strengthen your mind. We're living in serious times. It's such a mysterious time. We're living in serious times. Times, we're living in serious times. It's such a mysterious time. We're living in serious times. And this is surely not the time to backslide. Don't let the wrong thoughts take you for a ride. Temptation pretty and a dazzle in your eyes. Your role in this world you have to realize. Cause it's a you the serpent one brutalize. So strengthen up yourself, your youth and your wife. Bring forth good.
On a corrigé les enfants tant et plus, par la fessée, le fouet, le jeûne, les corsets, la prison. On les a contraints, par tous les moyens possibles, à entrer dans le moule. Je ne me fais pas d'illusions, et comme Neil, j'admets que le besoin d'approbation est un besoin humain profond. Dans le souci de plaire des enfants, entre un élément qui remplace avantageusement la crainte, comme disent les parents modernes. Les mioches ont envie, n'en doutons aucunement, de répondre à ce qu'on attend d'eux. On n'est pas toujours obligé d'user de la violence pour les faire se plier aux règles. La douceur parvient au même résultat. L'essentiel restant l'acquisition, de gré ou de force, d'automatismes sociaux. Imaginez un peu que les enfants n'en fassent qu'à leur tête. Où irions-nous ? La phrase que j'ai sans doute entendue le plus souvent depuis ta naissance est vraisemblablement.
Mais enfin, un jour ou l'autre, il faudra bien qu'elle apprenne à obéir.
L'obéissance est une vertu. On mesure les qualités de tous, de tout responsable, à la faculté qu'il a de savoir se faire obéir. On parlait beaucoup de pouvoir et de lutte à mener contre eux, il y a quelques années. J'étais toujours très ulcérée de cette bagarre contre les autorités en place, qui ne pouvaient que viser à les remplacer. La seule lutte profondément utile à mener, ce n'est pas contre l'autorité, mais contre la soumission. Là seulement, le pouvoir, quel qu'il soit, est perdant. Pire que tout fascisme, que toute tyrannie, son acceptation, si possible malheureuse, c'est encore plus tragique. Alors, quand on lâche les enfants en récréation, on les entend hurler. Ils jouent. Ils jouent. Il n'est pas requis de qualité hors du commun pour discerner la différence de cri entre des enfants qui jouent de bon cœur et des enfants qui jouent des nerfs. La plupart des adultes voudraient que l'enfant fasse joujou pour se détendre. La récréation est par excellence la reconstitution d'une force de travail. Les classes où l'on se divertit pendant les cours ont mauvaise presse auprès des parents. Les éducateurs qui bossent dans certains centres médico-psychopédagogiques n'en peuvent plus de se faire houspiller par les parents.
C'est pour rattraper notre retard que son retard que notre enfant est là. Pas pour danser ou shooter dans un ballon.
Toujours la police et les juristes ont été les alliés efficaces des enseignants, et notamment pour empêcher les enfants de s'amuser. Ça ne date vraiment pas d'aujourd'hui. On peut voir au musée des arts et des traditions populaires une affiche du 27 mars 1752 qui porte cette ordonnance. Défense au maître des jeux de paume et de billard donnés à jouer pendant les heures de classe. Le jeu est suspect. Dans le même ordre d'idées, il est inquiétant de voir comme on rogne les vacances scolaires des élèves. On se méfie de ce temps libre. Le temps qu'on ne passe pas à travailler est dangereux. Étrangement, le jeu est assimilé à l'oisiveté. Il va de pair avec le vice. Tout le monde sait ça. Les jeux admis par les adultes apparaissent passablement louches. Dans la confusion générale actuelle, on aura noté la tendance aux jeux éducatifs, dont le moindre n'est pas, dans les écoles de pointe, cette vogue des conseils d'enfants, où des mômes autogèrent ce qui peut s'autoréger de leurs tristes conditions scolaires. Pourtant, Dieu sait comme les mômes ont horreur des réunions. La modernité voudrait que le travail soit un jeu et le jeu un travail. Les jeunes loups d'aujourd'hui s'amusent comme des fous à gagner beaucoup d'argent qu'ils dépensent, sinistre, pour occuper leurs assommants loisirs. Les contestataires de l'école ont pas mal disserté sur le jeu. Neil estime que si les enfants le préfèrent au travail, c'est qu'ils peuvent y faire intervenir leur imagination. Mais je suppose que les chercheurs en sciences comme ailleurs ont besoin de leur imagination aussi pour travailler. À l'opposé, Kamnef ne voit dans le jeu que la pilule qui permet de faire passer le temps. Un succès d'année donné aux enfants pour qu'ils se trompent, pour qu'ils trompent leur faim de participer réellement à la vie. Il estime qu'à l'école en bateau, l'enfant créateur remplace l'enfant joueur. N'ayant plus besoin de hocher, celui-ci a envie de prendre en main son existence, de travailler à la réalisation de ses projets. Dans tout cela, sans doute, il y a une part de vérité. Incontestablement, le jeu distrait d'une réalité insupportable. Et il n'est pas moins certain qu'ordinairement, le travail se déroule dans le plus tragique ennui. Mais le jeu, cette luxueuse inutilité, ce rêve qu'on peut faire à plusieurs est aussi le plaisir de la poésie, de la liberté de voir autrement le monde et d'en faire jaillir par l'idée créatrice une idée profonde. Ce qu'il est pour l'enfant nous est devenu tellement étranger. Une seule fois j'ai pu m'en approcher. Tu te souviens ? J'avais pris de l'acide. Ta présence m'était exquise. Tu devais avoir 5 ou 6 ans et nous avons joué à la dinette. J'ai compris alors qu'en l'enfant ludique, l'unité entre l'imaginaire et le réel était totale. Pas de personnage ni de double. Les seuls jeux de l'adulte qui souffriraient peut-être encore la comparaison seraient les multiples variantes de celui qu'on appelle le jeu de la vérité ou encore la roulette russe. Au cours de l'adolescence, se produit une série de ruptures. Tu ne joues plus A, tu te joues 2. Tu prends tes distances. C'est cela sans doute, devenir grande. Et tout ton rapport au monde sera contenu désormais dans cette question de la distance.
Maturité de l'homme. Retrouver le sérieux qu'il mettait au jeu étant enfant. Nietzsche, par-delà le bien et le mal.
La conception ordinaire de l'adulte, c'est que l'homme fait partie du monde, alors que l'enfant a les meilleures raisons de croire que le monde fait partie de lui. Il le transforme, le crée, le pense. Son monde est fantasque, libre. La force des choses ne sera toujours que notre manque d'imagination. Les enfants non scolarisés que nous connaissons, toi et moi, ne sont jamais mous et mornes comme ces malheureux élèves écrasés par leur impuissance dans le train scolaire qui les emmène au front. Le front, la vie active. On ne cesse, sous diverses formes, d'exprimer devant moi cette idée qu'il faut bien, malheureusement, que les enfants s'ennuient à l'école pour s'habituer. Tu t'es, toi aussi, laissé dire que j'avais eu tort de ne pas te scolariser, parce que plus tard tu ne pourrais jamais supporter les contraintes du travail. Par ce dernier euphémisme, ils entendent la tristesse du servage. Il ne fait aucun doute, contrairement à une idée très répandue, que les hommes se donnent un mal fou pour s'accoutumer à mourir. Ils vivent comme des mourants à l'économie. À l'école, les mômes deviennent très rapidement aussi standardisés que des adultes, aussi ternes et insipides. Un auteur américain, Lewis Mumford, a dit que les jeunes vivaient d'ores et déjà le lugubre après-guerre d'une troisième guerre mondiale. Quand j'oppose aux enfants du système scolaire ceux qui n'en ont jamais été victimes, je ne prône pas je ne sais quelle éducation anti-autoritaire qui donnerait aux enfants la liberté. D'abord, je n'ai jamais vu d'enfants libres. Ensuite, je ne veux pas plus d'une éducation libertaire que d'une autre. Ceux qui ont voulu épargner l'école aux enfants, dans des lieux communautaires ou non, ont souvent fait leur la devise. Fais ce que tu voudras. Mais le cher moine et prêtre qui imagina l'abbaye de Thélème ne l'avait conçu que pour des êtres raffinés qui, parce qu'affranchis des obligations sociales, trouvaient leur bonheur dans l'invention de relations libres. Or, a priori, nul n'a jamais prétendu que des êtres adultes et enfants qui se retrouvent en France à la fin du XXe siècle puissent d'emblée établir entre eux des rapports dégagés de pression sociale. Ce n'est pas en soufflant dessus que nous abolirons les contraintes. Les tout-petits sont évidemment aussi coincés que leurs aînés par les interdits. Bien des lieux libertaires ont réintroduit le droit et la morale dans leur fonctionnement, recréant par là même une société. Comme de bien entendu, c'est alors ensemble qu'on se choisit ses règles. Ce qui est mauvais est ce qui va contre le bon fonctionnement de la communauté. En ce sens, rien de nouveau sous le soleil. Nos sociétés actuelles sont toutefois fondées sur ce même principe. qu'est-ce qu'on a à perdre ? Ça ne tourne pas rond. À peu près tout le monde en est bien persuadé. Et puis on s'en fout. L'idée de progrès, telle qu'elle est devenue à la Renaissance, le vecteur de l'histoire, est fixiste. On croit être dans le mouvement, la modernité. On est dans des toupies sans communication possible les unes avec les autres. Ce qu'on appelle dans les médias communication n'est que le système de connexion dans le circuit. Si c'était intéressant. Mais ce n'est pas du tout intéressant. Alors moi je fais autre chose. Ce n'est pas difficile. Oui, mais tu vas crever de faim. D'abord, ce n'est pas sûr. Ensuite, d'adhérer au système ne me garantit aucunement le vivre et le couvert. Enfin, pour ma part, je préfère mourir de faim que mourir de peur d'avoir faim. La peur fait plus mal au ventre et je suis assez douillette. En tout cas, je ne veux pas vivre idiote et j'ai désiré que tu viennes dans un monde possible. Aurais-je seulement pensé à toi si j'avais cru que ce monde n'était que ce qu'il est, c'est-à-dire invivable ? J'ignore si je peux le transformer. J'y réfléchirai. Mais je sais que je peux faire évoluer ma pensée. Et ma pensée, c'est ma façon d'être. De faire mes courses, de me laver, de jouer, d'écrire. C'est toujours ce qui a l'air très compliqué qui est très simple, et inversement. La force qui nous écrase tranquillement, sous tous les régimes, n'est que notre assentiment à cette force. Seulement voilà, il n'est pas exclu que nous soyons quelques-unes et quelques-uns à rire doucement, comme ça arrive quand on s'est creusé la tête en vain pendant plusieurs jours et qu'on découvre l'invraisemblable facilité de la solution du problème. Il suffisait d'y penser. Résumons-nous. L'école fait du gardiennage d'enfants, les surveille pendant que les parents travaillent, leur fait apprendre ce qui est utile au roulement de la machine socio-économique, leur inculque la soumission, opère la sélection et distribue les rôles. Et aucune de ces perspectives ne me convient. Ceux qui ont choisi l'insoumission au service scolaire en ont payé le prix. C'est vrai. Je reparlerai d'eux. Si nous devions être, toi et moi, poursuivis, je crierais bien haut pour rire. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946. Et comme une étrangère en ce pays, je demanderai qu'on veuille bien m'y établir une carte de séjour provisoire. Où irais-je sinon ? On est enseigné partout. Solitaires dans nos choix, la plupart ne désirions pas pour autant demeurer isolés. Quelques parents restèrent à l'écart de tout ce qui pouvait ressembler à un groupe. D'autres s'unirent. C'est Jules Chancel de la Barque qui le premier osa parler d'autres d'adultes et d'enfants associés dans une tentative commune de vivre des rapports nouveaux. L'idée maîtresse est de demeurer très éloignée de ce que sont devenues par la suite les écoles parallèles, les apprentissages étant les dernières de nos préoccupations. Ce que nous avons voulu, c'est sortir des rôles parents-enfants, enfants-adultes, hommes-femmes. Chacun a essayé de vivre avec les enfants et les adultes qui l'entouraient, et avec son propre enfant, autre chose que ce qui était prescrit par la norme sociale. Ne pas envoyer son enfant à l'école implique à l'évidence qu'on remette en cause la famille, le travail, la politique. Ceux qui ont choisi l'association dans des lieux antiscolaires ont presque tous été tentés, si ce n'est de vivre en communauté, du moins de réviser l'idée de maison. Beaucoup de secousses personnelles et collectives, mais toujours cette idée restera primordiale qu'on ne pouvait vouloir une autre vie pour les enfants sans une autre vie pour nous. Ce besoin de voir les choses globalement, depuis une naissance sans violence jusqu'à une mort sans hypocrisie. Est sans doute ce qui a été le plus vilipendé par nos détracteurs. La preuve que nous étions des fous utopistes, c'est que nous voulions tout changer.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Voilà, c'était lu et approuvé. Et c'était un livre, des extraits d'un livre de Catherine Baker, française malgré son nom. Voilà. Et c'est un chouette bouquin, qu'on voulait vous lire, qui est pas facile à lire, à entendre. Insoumission à l'école obligatoire, aux éditions Ravin Bleu pour l'édition française de 2006, qui d'ailleurs
est complètement copyleft, donc le texte peut être trouvé, j'imagine, sur internet de manière gratuite et libre. Et puis vous pouvez aussi vous en servir pour rediffuser les idées et les morceaux de texte de manière gratuite et libre, bien sûr. Du coup, voilà, lui est approuvé, ben, c'est chaque mercredi soir de 23h30 à minuit. Et vous pouvez nous réécouter nos émissions sur notre blog luetapprouvé.noblogs.org. luetapprouvé.noblogs.org, c'est sans accent. Vous tapez luetapprouvé dans votre moteur de recherche préféré, c'est-à-dire pas Google. Et vous trouverez également, d'ailleurs, sur le site de Canal Sud même, la page luetapprouvé. Et puis vous pouvez écouter le direct sur internet également, hein, à l'autre bout de la France ou du monde. Bref. Luetapprouvé se termine pour ce soir. Si vous voulez nous contacter, j'allais oublier, et ben, on a une adresse mail, luetapprouvé sans accent tout en minuscule, @guyade.org pour proposer vos lectures ou pour proposer des textes à lire. À la semaine prochaine, du coup, et bonne soirée sur Canal Sud.
Allez, au lit tout le monde, il y a école demain. Si nous ne l'ouvrons pas. Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world.